franceinter.fr.
L'homéopathie totalement inefficace, point d'interrogation, c'est à la une de la science aujourd'hui.
Alors messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe! Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé! Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour, il passe une heure avec chaque client, hein, une heure! Alors maintenant c'est décidé. S'il veut la guerre, ce sera la guerre. Mais l'homéopathie, c'est fini. Dehors tout le monde!
Voilà un petit extrait de la crise pour parler de cette étude australienne qui est sortie à la fin de la semaine et qui donc attaque vivement l'homéopathie. Elle a été menée par le Conseil australien de la Santé nationale de la recherche médicale et la conclusion est sans appel, cette médecine n'est efficace contre aucune maladie. Pour en parler, nous sommes avec vous Nawal Boujdeini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacologie et responsable de recherche pour le laboratoire Boiron qui commercialise donc des médicaments homéopathiques en France et ailleurs. Dominique Dupagne est à nos côtés, bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes notre médecin généraliste. Nawal Boujdeini, en lisant cette étude australienne, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux milliers de Français qui se soignent avec des granules homéopathiques et puis peut-être pour essayer de convaincre les autres?
Donc, je vous remercie pour votre invitation et moi, en tant que chercheur, donc, j'ai trois points qui ont attiré mon attention dans, dans ce rapport, qui n'est pas le premier rapport ni la première méta-analyse. Donc, les trois points sur lesquels je vais revenir en détail. Le premier, c'est le choix arbitraire des études. Donc, ils ont sélectionné les études de 1997 à 2013 en omettant de lister certaines études favorables pour l'homéopathie. Le deuxième point, c'est l'évaluation de la qualité des études anciennes. C'est l'évaluation de la qualité des études anciennes avec une échelle de qualité méthodologique récente qui date de 2007. Et le troisième point, c'est la composition des experts qui est critiquable. Donc, critiquable. Pourquoi
il n'y avait pas d'experts favorables à l'homéopathie?
Il n'y avait pas d'experts du domaine homéopathique. Et ceci se reflète au niveau du rapport, puisque nous avons remarqué qu'ils ont éliminé toutes les études qui prennent en compte l'individualisation qui est la spécificité de l'homéopathie. Donc, c'est comme si nous souhaitons demain faire une enquête sur le dérèglement climatique oui. Et nous allons oublier de prendre en compte des experts du domaine comme les climatologues, les météorologues. Donc voilà.
Alors, Dominique Dupagne, comment cette étude australienne en arrive à une conclusion si radicale quand même? Parce qu'il n'y a aucune maladie qui ne trouve grâce à leurs yeux, visiblement.
Alors, ce n'est pas un nouveau travail scientifique, c'est une revue de ce qui existe. Ce n'est pas la première fois, en effet, que ça arrive. Donc, à chaque fois, bien sûr, tout le monde s'agite. Les homéopathes disent que ça a été mal fait. Les anti-homéopathes disent au contraire. Je ne suis pas sûr que ce soit plus passionnant, si vous voulez, de prendre une bataille à partir d'études. Il est vrai que l'homéopathie peine à prouver son efficacité, mais est-ce que vraiment c'est utile de se lancer dans une démonstration scientifique?
Surtout de la part des Australiens, non? Qui ne sont pas tellement sensibles à cette
pharmacopée. C'est les Anglo-Saxons, donc ils ont un côté quand même très carré. Et nous, les Latins, on est plus côté valeur humaine. Alors, c'est une médecine qui est un peu humaine, l'homéopathie. Et puis, surtout, ça évalue les remèdes homéopathiques. Mais l'homéopathie, c'est pas que ça. C'est une consultation avec un médecin homéopathe plus une éventuelle prescription de remèdes homéopathiques.
Oui. Avec un médecin qui prend du temps, comme on a entendu dans l'extrait de la crise tout à l'heure. Et ça change tout.
Mais qui s'intéresse à la personne, alors que l'allopathie s'intéresse à l'organe, si vous voulez. Donc, il y a une approche qui est totalement différente dans les deux cas. Ouais.
Dominique, quand même un mot sur votre position pour être très clair sur l'homéopathie. Vous n'êtes pas médecin homéopathe, mais vous en prescrivez?
Alors, je ne prescris pas d'homéopathie parce que ça suppose que j'ai une formation dans cette discipline. Moi, je considère la médecine plutôt comme un art, même si je suis scientifique de formation. Clairement, je ne crois pas à une efficacité intrinsèque de ce qui est contenu dans les granules. Ou alors, ça mettrait en cause beaucoup de lois physiques et chimiques. Si
c'est-à-dire que pour vous, c'est quoi? De la poudre de perlimpinpin?
Non, c'est des termes qui sont blessants, je dirais. C'est un adjuvant.
Non, vous dites qu'il n'y a rien intrinsèquement, donc il y a quoi dedans?
Il n'y a pas d'efficacité intrinsèque dans les granules, comme dans beaucoup de médicaments allopathiques largement prescrits. Si vous voulez, on connaît la force de la parole, on connaît l'importance de la prise en charge humaine des patients. Et aussi de l'effet de la prescription. Alors, on peut dire placebo pour dire un mot qui fâche, si vous voulez, mais le placebo, il est dans la façon de parler, dans la façon de recevoir, dans la façon d'écouter aussi. Donc, à la fois, bien évidemment pour moi, le remède homéopathique ne contient rien de tangible, et en même temps, l'homéopathie est une médecine que je trouve intéressante et précieuse.
Bon, donc c'est plutôt l'environnement autour de la personne qui va se soigner qui fonctionne sur le malade plus que sur la granule elle-même alors.
C'est une approche médicale particulière. Ouais. Voilà.
Nawal Boujdeni, alors là vraiment je m'adresse à la chercheuse, quelles preuves scientifiques vous apportez justement vous pour montrer l'efficacité de l'homéopathie ?
Après, qu'est-ce que vous entendez par l'efficacité, puisque est-ce qu'on
vous
parle
êtes, vous êtes scientifique quand même, donc
oui,
vous étudiez le problème.
Je vous parle en tant que chercheur et
avec
je suis venue ici avec la casquette chercheur.
Oui, mais répondez-moi. On ne fait pas de circonvolution. Répondez-moi directement. Qu'est-ce qu'il y a comme preuve de l'efficacité de l'homéopathie?
Aujourd'hui, je peux vous parler d'une étude qui vient de se terminer, d'une grande étude, épidémiologique qui a été réalisé sur trois grandes pathologies les plus fréquentes au niveau de la médecine générale. Et je peux les citer sur les infections des voies aériennes supérieures, sur les douleurs musculaires squelettiques, sur le sommeil, anxiété et dépression. Et dans cette étude, il y a 800 médecins qui ont participé et 8000 patients qui ont été inclus. Et nous avons montré dans cette étude... il a été montré que les patients traités par des médecins qui utilisent l'homéopathie sont aussi bien améliorés au niveau à la fois au niveau des symptômes cliniques et aussi de la qualité de vie par rapport à des patients qui sont suivis chez des médecins qui utilisent les médicaments conventionnels.
Oui. Alors, le problème, c'est que cette étude, elle s'appelle EPI 3, c'est bien ça ?
EPI 3.
Voilà, EPI 3, et qu'elle est financée par Boiron. Donc, vous comprenez que
C'est une étude qui est réalisée quand même par des universitaires, des scientifiques de renom. Donc, on ne va pas...
Est financé par Boiron.
Bah
quand même.
Mais attendez, tous les laboratoires pharmaceutiques.
Oui, mais on peut se dire, est-ce que ça ne biaise pas un peu les résultats?
Non. Voilà,
toutes les études sur les médicaments sont financées par le fabricant des médicaments. Clairement. Quelle que soit l'homéopathie ou l'allopathie.
Je peux vous apporter encore une information, c'est que cette étude, même si elle a été financée par Boiron, c'est une étude dont celui qui a géré l'étude, et je vais donner le nom, c'est Lucien Abenaïm, il a souhaitait garder sa neutralité et il était le promoteur de l'étude. Donc, c'est une étude qui a montré le bénéfice de l'homéopathie pour traiter des pathologies chroniques.
Axel Villard.
Oui, une question que je me pose, et je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que l'homéopathie coûte ou rapporte de l'argent à la société et à la sécurité sociale ?
Je peux vous répondre sur cette question, puisque...
Dans le micro, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, l'homéopathie, il y a une grande polémique sur l'homéopathie, mais l'homéopathie, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente uniquement 0,1% du marché mondial du médicament. En France, effectivement, nous avons 56% des Français qui utilisent l'homéopathie. Et l'homéopathie, elle a progressé pendant les 200 années depuis qu'elle a été créée. Elle a été créée par le fondateur Samuel Hahnemann sur, bien sûr, une démarche scientifique.
Dominique Dupagne.
Une démarche scientifique, il a commencé par faire le principe des contraires, c'est-à-dire de donner un médicament qui donnait l'effet de la maladie. Et quand il a vu que tout le monde mourait, il a pensé à les diluer après. Donc c'est une démarche scientifique, mais qui est un petit peu pragmatique quand même.
Juste une question quand même. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à avoir des études scientifiques autres que celles que vous nous citez ? Donc EPI 3, c'est pas très compliqué de mettre un protocole en place quand même pour tester l'efficacité. Parce qu'il faudrait quand même avoir des résultats là-dessus. On voit bien que ça fonctionne quand même.
On pourrait imaginer que Boiron mette de l'argent sur la table, il a de l'argent, et pour dire à tout le monde, bah, écoutez, on va se mettre autour d'une table, on va trouver un protocole, on va le faire ensemble, vous allez être des observateurs et puis on va publier les résultats et on sera forcé d'adhérer à tous ces résultats. Mais moi, personnellement, je ne suis pas sûr que je sois favorable à ce genre de choses. Et je vous expliquer pourquoi. Une histoire très simple. Une fois, j'avais une patiente, quand j'étais un jeune médecin, un petit peu péremptoire, qui me prenait un petit peu de haut et qui me dit à la fin de la consultation, à l'époque, la vitamine C était remboursée et prescrivez-moi mon gramme de vitamine C tous les matins parce que sinon, je ne peux pas travailler. Et je lui dis, mais comment la vitamine C ? Mais ça n'a aucun effet, mais c'est un placebo, etc. Elle me dit, vous êtes sûr ? Mais oui. Et je lui envoie, parce que j'étais un peu vexé, deux études scientifiques montrant que la vitamine C n'avait aucun effet placebo. Je la revois 6 mois après, elle arrive, elle me regarde, elle me dit « Docteur, vous êtes un imbécile ». Je dis « Pourquoi ?» Eh bien, j'ai lu vos études et maintenant la vitamine C ne me fait plus rien. Alors je fais quoi maintenant ? Et je suis resté la bouche ouverte devant et j'ai compris que la médecine était un peu plus compliquée que ce que je pensais. Et donc, Il y a des pratiques semi-magiques, je dirais, en médecine. Est-ce qu'il faut absolument aller fouiller ?
C'est pas tenable comme argument, mais c'est pas tenable.
Mais attendez, parce qu'il faut que la science prouve. Vous arrêtez la psychanalyse, vous arrêtez tout.
Mais là, on est sur des molécules, on est sur des médicaments, donc il faut savoir comment ça fonctionne.
Des assimilés médicaments qui ne coûtent rien, qui ne présentent aucun danger, qui sont prescrits par des médecins compétents et qualifiés, qui sont capables de passer à l'allopathie quand c'est nécessaire, donc dans des conditions de sécurité extrêmes. Moi, je serais personnellement très triste qu'on arrête de rembourser l'homéopathie. Je trouve qu'il faut un espace.
Mais ça, c'est autre chose. De rembourser, c'est autre chose, mais qu'on fasse des études scientifiques, c'est une chose.
Quelles conséquences ça aurait si on déremboursait l'homéopathie, selon vous, Dominique ?
Un surcroît d'effets secondaires avec des médicaments dangereux, une surconsommation d'antibiotiques, une augmentation des coûts de la santé, des gens qui seraient moins bien pris en charge, qui seraient très malheureux. Ça serait, à mon avis, quelque chose de dangereux.
Nawal Boujdeni, pour conclure.
Je rejoins
Dominique Dupagne
sur le fait qu'il va y avoir une augmentation des effets indésirables et aussi de la consommation, une surconsommation de médicaments qui induisent des effets indésirables. Et cette étude, je reviens encore une fois sur l'étude EPI 3 qui a montré sur une pathologie de douleur musculaire squelettique, qui est quand même une pathologie chronique, nous avons amélioré la qualité de vie avec une diminution de 30% de l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc là, on apporte un bénéfice, mais sans aucun danger.
Allez, Dominique, pour terminer, en tout cas, on peut dire aussi qu'il y a une majorité de Français qui se soignent aussi
et
comme ça.
Et qui s'en portent très bien. Le débat que vous voulez, c'est est-ce que c'est lié à ce qu'il y a à l'intérieur des granules ou est-ce que c'est lié à la prise en charge ? Eh bien, je n'en suis pas certain.
Bon, ça c'est votre conclusion, mais je ne partage pas votre avis.
Et la conclusion finale, pour revenir sur les études scientifiques, nous menons des études sur les cultures cellulaires, sur des cellules in vitro, et là, il n'y a pas un effet placebo, et nous avons montré, avec les médicaments homéopathiques, et c'est réalisé dans les laboratoires universitaires publics, nous montrons une activité biologique.
Bon. Et on finit avec ce texto de Alex qui nous dit ceci, on ne comprend pas ce genre de débat, l'essentiel c'est que ça fonctionne pour certains. Et bien voilà, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. En tout cas, à tous les deux. Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, attention à l'excès de sel des chercheurs du Delaware en France. Le clou, jusqu'à présent connu pour endommager les parois internes des vaisseaux sanguins et compromettre le bon fonctionnement du cœur. L'abus de sel pourrait aussi atteindre les reins, entraîner des troubles de la coagulation ou des anémies, mais surtout les neurones moteurs du cerveau et le système nerveux sympathique. Même sans souffrir d'hypertension artérielle, il est vivement conseillé de suivre les recommandations qui sont de ne pas dépasser 3,2 grammes de sodium par jour chez les hommes et 2,6 chez les femmes. Une question pour les jeunes parents, body ou turbulette ? Des chercheurs de Rennes ont observé l'impact de l'habillement des prématurés sur leur comportement. Les bébés enveloppés d'une turbulette étaient moins actifs et touchaient moins fréquemment d'autres parties de leur corps que les bébés vêtus d'un simple body. Les scientifiques supposent que les bébés en turbulette pourraient subir plus de stress que les autres. Il a la face plate, de grands yeux, un nez bien marqué, une belle crinière blonde. Un spécimen rare de singe Lesula a été filmé 3 fois dans la forêt nationale du Congo. Photographié pour la première fois en 2007, il a été identifié comme nouvelle espèce en 2012. Et vous pouvez retrouver la vidéo de ce singe Lesula sur la page Facebook de La Tête au Carré.